il n'a pas réussi assez bien avec les Suisses. Puis qu'il y en a d'autres qui sont mieux, qui sont plus beaux, qui sont plus forts, qui sont plus doués, qui sont plus capables. Mais Dieu ne s'est pas trompé quand il nous a créés. De la même manière, quand il t'a créé, il ne s'est pas trompé, Dieu. Et le meilleur parfum que tu puisses lui offrir, c'est ta vie. Et souvent on dit, ouais, c'est pas un très bon parfum, ça. Avec ce qu'il y a dans mon cœur, avec ce qu'il y a dans mes pensées, avec ma vie, avec ce que je pense de moi, on méprise ce parfum. Et vous méprisez le fabricant du parfum. C'est qui t'a fabriqué? C'est qui t'a donné la vie? C'est qui t'a donné ses dons? Qui est-ce qui t'a créé comme tu es? C'est Dieu. Donc si tu méprises, tu dis, mais Dieu, tu t'es trompé. Tu aurais quand même pu faire mieux, Seigneur. N'est-ce pas? Il ne faut pas mépriser ce que Dieu a fait. C'est la pire chose que tu puisses faire, mépriser ce que Dieu a fait au travers de ta vie. Ton parfum, tes dons, tes capacités, c'est bon pour Dieu. Et Dieu les reçoit. Et quand tu bâtis un autel à l'Éternel, tu viens comme tu es. Tu ne peux pas te changer. Tu ne peux pas dire, bon, maintenant j'ai fini le travail, maintenant je vais à la réunion, maintenant je suis un bon chrétien. Ce n'est pas possible. Et à la longue, si tu fonctionnes comme ça, tu vas devenir schizophrène. Tu vas avoir des gros problèmes dans ta tête. Tu auras deux personnalités. Dieu ne veut pas que tu aies deux personnalités. Il veut que tu aies une personnalité au travail, à la maison et à l'église. Que ce soit ce même parfum pour ta femme, pour tes enfants, pour ton patron et pour lui. Et Dieu sera glorifié comme ça. Bâtir un autel à l'Éternel, c'est être des pierres vivantes. Être des pierres vivantes. Être vraiment vivant pour lui. Dieu vous attend vivant. Et ce soir, il s'est glorifié de la vie qui s'est manifestée parmi nous. Et la vie, elle se manifeste comment? Par tout ce qu'on peut faire. Par nos chants, par nos bouches, par nos gestes, par nos mouvements, par nos dons, par nos capacités, par la danse, par la musique, et puis par nos dons, par nos offrandes. Et puis encore plein d'autres choses sûrement. Il ne faut pas limiter l'autel de l'Éternel. Il ne faut pas le rétrécir. Dire, ça c'est l'autel. Il y a deux cailloux, un petit parfum et c'est bon. Dieu est en train de construire un grand autel, très large, très vaste, avec beaucoup de cailloux, avec beaucoup de pierres, avec beaucoup de parfums, avec beaucoup de mélanges, avec beaucoup de créativité, avec beaucoup de couleurs. Vous savez, je vais dans certaines églises, puis on me dit, ça c'est le parfum pour l'Éternel, mais pas ça. Ça il aime, ça il n'aime pas. Vous avez déjà été parlé avec Dieu pour savoir ce qu'il aimait, ce qu'il n'aime pas? Il y a des choses qu'on sait qu'il aime, parce qu'elles sont écrites là-dedans. Il y a des choses qu'on sait qu'il n'aime pas. Mais très souvent, on confond, et on met nos goûts personnel sur les goûts de Dieu. On dit, Dieu il aime cette musique, mais il n'aime pas cette musique. Ben, dis donc, tu es vraiment fort pour savoir ce que Dieu aime comme musique. Qu'est-ce qu'il a dans sa discothèque, hein? Qu'est-ce qu'il écoute Dieu? Mais il écoute le son des cœurs qu'il adore. Et le son des cœurs qu'il adore, ils peuvent avoir des sons très différents. Ils peuvent avoir des mélodies très différentes. Est-ce que Dieu aime la musique arabe? Ah, est-ce que Dieu aime la musique latino, la samba? Est-ce que Dieu aime la musique classique, les violons, les flûtes? Est-ce que Dieu aime la guitare? Est-ce que Dieu aime le tambourin? Mais si on lit la parole, Dieu nous dit, célébrez-moi avec le luth, la guitare, les tambours, toutes les cymbales même sonores, pas les cymbales minuscules, cymbales qui résonnent. Dieu, il aime ça. C'est des sons, des couleurs. Et Dieu aime ça. Et quand on lui offre nos parfums, Dieu il les aime, ces parfums. Il ne va pas renier, mépriser ce qu'il a créé. Il aime ses parfums. Donc, ne dis jamais, moi je ne peux pas adorer Dieu. Ne dis jamais ça. Dieu t'a créé pour que tu puisses l'adorer. Ne dis jamais, mon frère il loue mieux que moi. Comment tu peux te comparer? Comment tu peux donner une note à la louange? Est-ce que tu vois le cœur de ton frère? Peut-être qu'il lève les mains très haut, mais que son cœur est triste. Peut-être que son cœur, il n'est pas encore 100% pour lui, même s'il lève les mains. Toi, tu ne lèves pas les mains, et ton cœur, il est donné. Dieu est le seul qui a le scanner, qui voit jusqu'au fond. Le scanner de la louange, c'est Dieu qui l'a, c'est pas toi. Donc, ne méprise pas, ne critique pas, ne juge pas. Mais adore. Adore Jésus. Adore-le de tout ton cœur. Pourquoi est-ce qu'on va bâtir un autel? Quel est le but? Comme je l'ai dit, c'est pas de revenir dans l'Ancien Testament, c'est pas d'impressionner les autres, mais le but d'un autel, le premier but d'un autel, c'est d'accueillir la présence de Dieu. Le but d'un autel, c'est de dire, montrer un signe que Dieu est là, qu'il y a une connexion entre la terre et le ciel. Et dans l'Ancien Testament, c'est ce qui se passait chaque fois que Dieu venait, chaque fois que Dieu se révélait à Moïse, à Abraham, à Jacob, à Isaac et à d'autres. Qu'est-ce qu'il faisait? Il construisait un autel visible, des pierres, il brûlait. Et tous les gens qui passaient par là pouvaient dire, ah, là Dieu s'est manifesté, là la présence de Dieu est venue. Donc, c'est sérieux, Dieu existe. C'était sûrement un endroit de conversion, un endroit de consécration, un endroit pour revenir à l'Éternel. Et certains prophètes, ils retournaient à l'autel quand ils avaient des difficultés ou des moments. Dieu aujourd'hui nous demande la même chose. Bâtir un autel, c'est revenir à Dieu, c'est accueillir sa présence, c'est être un signe pour les autres, c'est être une consécration à Dieu, c'est laisser les autres venir à cet endroit. Mais maintenant, on n'a plus besoin de monter sur la montagne. On peut le faire sur la montagne, amen. Dieu est élevé sur les lieux élevés. Mais on peut le faire au fond de la vallée, on peut le faire dans la plaine, on peut le faire dans les collines, on peut le faire dans les maisons, on peut le faire dans les églises, on peut le faire au bureau, on peut le faire dans la voiture. On peut accueillir sa présence partout, n'est-ce pas? Et ça, c'est important. Et c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Dieu veut établir son règne sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de problème, Dieu. Vous savez? Là, il règne, il domine. Dans le troisième ciel. Dieu maîtrise les cieux et la terre. Mais sur la terre, il a choisi de venir là où on l'accueille. Bien sûr qu'il pourrait venir d'un coup d'éclair, d'un coup de tonnerre, d'une manière magistrale, tout renverser. Et un jour, il viendra. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et on va être surpris. Mais d'ici ce jour, il veut descendre là où on l'accueille. Et notre vie, notre adoration, c'est comme un canal. C'est invisible et pourtant c'est visible. On crée un immense canal de lumière où la lumière va descendre. Comme un électricien qui va mettre le tuyau avant de mettre le fil. Comme un plombier qui va préparer son tuyau pour que l'eau vienne. La louange, l'adoration, c'est préparer le canal pour que Dieu vienne. Et Dieu l'a promis. Il dit qu'il vient siéger au milieu des louanges de son peuple. Psaume 22, verset 4. T'as envie que Dieu vienne? Comment tu vas l'accueillir? Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens. Non, il n'y a même pas besoin de lui demander. Il veut venir. C'est même pas un problème de volonté. Il dit simplement, adore-moi et je viendrai. Donc si tu l'adores, il va venir. Tu veux sa présence dans ton église? Adore-le. Mais là, c'est normal, je dirais. Une église qui ne voudrait pas la présence de Jésus, elle a un gros problème. Hein? Pourtant, il y en a qui essayent de fonctionner comme ça. Donc ça, ça devrait être normal à l'église qu'on accueille Jésus. Mais maintenant, Jésus est en train d'élargir l'espace, les murs, de nos tentes aussi. Il veut qu'on l'accueille à la maison. Il y a trop de maisons d'enfants de Dieu où Jésus n'est pas accueilli. Ils sont d'accord d'avoir Jésus à l'église, mais pas à la maison. Ils sont d'accord d'avoir Jésus à l'église, mais pas dans le porte-monnaie, mais pas dans l'ordinateur, mais pas dans les finances, mais pas dans la vie de tous les jours, mais pas au bureau. Ah Seigneur, tu viens partout, mais au bureau, tu me laisses tranquille. Mais Dieu veut venir dans ton bureau aussi. Il veut venir se glorifier. Et j'ai rencontré beaucoup d'hommes d'affaires chrétiens qui accueillent Jésus dans leur bureau. C'est un témoignage impressionnant. Parce qu'ils parlent de Jésus dans leur bureau, parce qu'ils prient dans leur bureau, parce qu'ils demandent à Dieu de diriger leurs affaires. Ça change tout. Ça change complètement la perspective. Donc Dieu veut bâtir cet hôtel, il veut habiter. Il dit dans 1 Roi 8, 29, que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière de ton serviteur, fait en ce lieu. C'est Salomon qui fait ça pour accueillir la présence du Seigneur, qui fait cette prière. Et il demande, Seigneur, que tes yeux soient toujours là. Tu as dit que ton nom était là, alors viens habiter ce lieu. Tu l'invites, tu l'accueilles dans ce lieu. Et 1 Roi 9, verset 3, voilà ce qui répond Dieu. 1 Roi 9, verset 3, l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai là mes yeux et mon cœur. Si tu te rends compte qu'il y a le cœur de Dieu qui est là dans ta maison, waouh, qu'est-ce que tu peux avoir de mieux? Dieu a son cœur là où il y a les adorateurs, là où on l'accueille. Dieu est tellement bon, tellement doux, tellement gentleman qu'il ne va jamais s'imposer. Vous avez déjà remarqué ça? Le diable, il s'impose. Le diable, il vole. Le diable, il dérobe. Tu laisses la fenêtre entrouverte, il va entrer comme un voleur pour détruire. Tu laisses une partie de ton cœur ouverte, il entre. Jésus, il frappe. Vous avez vu comme il est poli? Comme il est bien éduqué? Jésus, il frappe. Et pas seulement une fois pour que tu te convertisses. Si tu le mets dehors, parce que tu es trop occupé, parce que tu n'as plus de place pour lui, parce que tu n'as plus le temps, il va sortir. Il y a des chrétiens qui pensent que Jésus ne peut pas sortir, qu'il est enfermé dans ton cœur. Mais non, il peut sortir, surtout si tu ne lui laisses pas de place. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il est dehors, il va encore frapper. Il va encore frapper à ton cœur et dire, est-ce que je peux rentrer? Mais j'ai cru que tu étais là. Tu n'as même pas vu que j'étais parti. Mais il y a des chrétiens, ils ne se rendent même pas compte que la présence de Dieu est partie. Ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes, que c'est difficile, mais ils n'ont même pas réalisé que Jésus n'est plus là. Pour toutes sortes de raisons. Pourquoi Jésus ne serait plus là? Parce que, justement, on ne le veut plus. On ne lui donne plus de place, on ne l'accueille plus, on le méprise. Et on laisse la place à beaucoup trop d'autres choses. Il faut l'accueillir, l'accueillir et l'accueillir et l'accueillir. Le fait de bâtir un tabernacle, ça met une priorité dans notre vie. Ça met les bonnes priorités, le bon ordre des choses. Dieu a un ordre dans la vie. Dieu a un ordre pour les choses. Et la priorité, c'est d'avoir la présence de Dieu. Dans une vie, dans une église, et jusque dans une nation. En Israël, on voit très bien l'histoire d'Israël, vous lisez les rois, vous lisez les chroniques, quand un roi accueille le Seigneur et dit « Seigneur, je veux que tu sois la priorité de mon royaume », ça change tout. Tout le royaume et toute l'histoire pendant des années est béni. Et quand un roi méprise Dieu, fait revenir les idoles, laisse plus de place au Seigneur, ferme le temple, la malédiction vient, les ennemis viennent, les ennemis attaquent. Chaque fois, vous pouvez lire l'histoire. Et même encore aujourd'hui, dans l'histoire de nos nations, dans l'histoire de nos peuples, dans l'histoire de nos pays, on voit ça. En Suisse, on a un privilège incroyable. Notre constitution suisse est basée sur le nom du Seigneur. Elle commence comme ça, au nom du Seigneur Tout-Puissant, Amen. Et ensuite, il y a toutes les lois qui régissent la nation. Ça a été écrit il y a plus de 700 ans. 1291, on dit en Suisse, 1291. Il y a eu la constitution où trois hommes se sont rassemblés pour dire au nom du Dieu Tout-Puissant, on veut le Seigneur sur notre nation. Et nous avons encore les bénéfices de cette bénédiction. Il y a des hommes qui méprisent ça. Il y a des hommes qui aujourd'hui, des politiciens qui disent « Oh, il faudrait enlever ça, ça sert à rien, etc. C'est juste deux, trois mots, etc. » On sait que c'est la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu ne renie pas sa parole. Quand il signe un contrat, il est toujours là. Ce n'est pas un homme pour renier ce qu'il a signé. Dieu a signé sa bénédiction sur notre nation. Et on le voit. On l'a vu au cours des siècles, au cours de l'histoire. Nous sommes une nation sans aucune ressource naturelle. Et Dieu a béni. Dieu a protégé, Dieu a gardé dans plusieurs situations. Et je l'ai vu aussi pour beaucoup d'autres peuples, beaucoup d'autres nations. Donc si c'est valable pour une personne ou pour une église, c'est aussi valable pour une nation. Les promesses de Dieu ne changent pas. Mais c'est important de savoir quelle est notre priorité. Je crois que le tabernacle, il est important aussi parce que on se rassemble autour de Jésus. On s'unit autour de la bonne priorité. Vous savez, il y a des chrétiens qui font des alliances, des églises, des dénominations qui essayent de faire des grandes organisations, qui veulent s'unir autour d'une conviction, d'une théologie, d'une pensée. Mais si tu ne t'unis pas autour de Jésus, tu ne vas jamais arriver. Tu peux avoir un certain niveau d'unité, mais la vraie unité, elle vient devant le trône de Dieu. C'est que dans sa présence, parce que dans sa présence, tu ne peux plus discuter, n'est-ce pas? Et c'est quand on discute qu'on a des problèmes. Oui, moi, je pense que. Oui, moi, il me semble que. Mais Dieu, qu'est-ce qui lui semble à lui? Qu'est-ce qu'il pense Dieu de tout ça? C'est pas moi, je pense que. Toi, tu penses que. On n'est pas d'accord, ou on va se mettre d'accord. Non, qu'est-ce que Dieu pense? Alors on dit, ah, ensuite, moi, je pense que Dieu pense. Mais il me semble que moi, il me semble que Dieu, que moi, que Dieu. Il y a toujours moi, au lieu d'avoir Dieu. Quand tu l'adores, il n'y a plus moi. À part que si tu te mets à l'adorer en analysant puis en disant « Moi, je trouve que ce chant, moi, il me semble que cette louange... » Non, laisse tomber ça. Mets-toi au pied de Jésus. Même si le chant ne te plaît pas, mets-toi au pied de Jésus. Même si les paroles ne te conviennent pas, mets-toi au pied de Jésus. C'est ça qui est important. Tu t'assembles devant lui. Et j'ai vu dans toutes les villes, dans tous les pays où Dieu a fait une œuvre, quand Dieu fait une œuvre, il y a toujours ça. Chaque fois qu'il y a une œuvre de Dieu, il y a un autel d'adoration qui est là. Chaque fois. Il y a un rassemblement d'une foule énorme qui est là pour adorer Dieu. Et Dieu bénit cela. Et Dieu vient. C'est plus au nom d'une église. C'est plus au nom d'une dénomination. C'est plus au nom d'une organisation. C'est juste au nom de Jésus. Bien sûr qu'il y a des gens qui organisent, qui travaillent, qui servent. Il y a des lévites qui sont au service. Mais c'est Dieu
qui le fait. Donc, accueillir la présence de Dieu, c'est bâtir un autel autour de Jésus. Vous savez ce qu'il dit le prophète Agée dans le premier chapitre de sa parole prophétique, il parle de ça. Il dit, je vais vous lire ça, Agée 1, à partir du verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Voilà ce que les gens disent. Mais bon, c'est pas le moment, on n'est pas prêt, il y a toutes sortes de problèmes, on peut pas. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mois. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. N'est-ce pas, malheureusement, trop l'exemple d'aujourd'hui? La réalité de l'Église aujourd'hui, chacun veut construire sa maison, son Église, son ministère. Alors que Dieu dit, c'est ma maison qu'il faut construire. Elle est où ma maison? Bien sûr que Dieu a besoin des églises, des dénominations. Il n'y aura jamais qu'une seule dénomination. C'est des organisations. Mais il faut que tous se mettent ensemble pour bâtir sa maison. Où est l'église de Bordeaux, sur cette ville qu'il adore? Il n'y a jamais une qui pourra s'appeler l'église de Bordeaux. L'église de Bordeaux, ça sera tous les membres, toutes les parties du corps de Bordeaux qui vont ensemble se rassembler. Et j'espère que le stade de foot sera pas assez grand pour qu'ils soient tous là pour l'adorer. Amen. Dieu a besoin de place. Il faut qu'on se mette ensemble. Mais il faut d'abord, comme dit le prophète, considérer vos voies. Des fois, on travaille, comme dans cet exemple, le salaire de celui qui t'agage tombe dans un sac percé. Tu travailles pour de l'argent et ton argent il repart aussi vite qu'il est arrivé. Mais si tu continues sans te poser de questions, tu es stupide. Si chaque fois que tu as quelque chose, une promesse de Dieu, une bénédiction, mais qu'elle s'en va, tu dis, mais il y a un problème. La bénédiction, elle n'est pas faite pour repartir, elle est faite pour rester. N'est-ce pas? Donc si la bénédiction, elle part à chaque fois, si la guérison s'en va, si les promesses, si la délivrance, si tout s'en va, il y a un problème. Il faut changer la manière de travailler. Il faut peut-être changer le sac. Mais il y a quelque chose à changer. Et Dieu va t'éclairer là-dessus. Et il faut rechercher. Trop souvent, on ne se pose pas de questions, on dit Dieu bénit, et même qui ne bénit pas, on continue. Mais s'il ne bénit pas, c'est qu'il y a peut-être un problème. Il y a peut-être une malédiction à briser, il y a peut-être un péché à confesser, il y a peut-être un pardon à accorder, il y a peut-être une action à faire. Ou, comme dit ce texte, de bâtir la maison de l'Éternel au lieu de bâtir ta propre maison. Ça ne veut pas dire qu'on va tous habiter dans les HLM ou sous les tentes. Hein. On a le droit d'avoir nos maisons pour travailler. Mais la priorité, c'est, à côté de ce que tu vis, bâtir la maison de l'Éternel. Monter, apporter, construisez, et baptisé. Et des fois même, Dieu il souffre sur ces maisons, il les détruit parce qu'elles sont mal construites. Ou elles sont faites avec des mauvaises intentions, avec un cœur qui n'est pas droit. Considérez attentivement vos voies. Église de Bordeaux, considère tes voies. Peuple de Dieu, considère tes voies et bâtis la maison de l'Éternel. Une maison pour sa gloire. Dieu ne va pas laisser sa gloire à n'importe qui. Dieu ne va pas te laisser jouer avec sa gloire. Et n'importe quel ministère, homme qui veut prendre la gloire de Dieu, il va tomber. Dieu attend que tu lui donnes toute la gloire. Pas la moitié de la gloire. Dieu partage pas sa gloire. Il répond, il donne, il montre, mais il la garde, toute sa gloire. Et un vrai serviteur de Dieu, tu vas le voir à long terme. Tu vas le voir dans son histoire, dans les fruits qu'il va porter. Les fruits, il faut plusieurs saisons. Des fois, ça impressionne beaucoup. Il y a un grand flash, une grande lumière. Mais après, il n'y a plus de fruits. Il faut que tu vois les fruits. Il faut que tu testes les fruits. Et Dieu va te montrer les fruits. Et ta plus grande aspiration, et j'espère que c'est la tienne, c'est la mienne, c'est de porter du fruit. Ce n'est pas d'impressionner, ce n'est pas de faire une grande lumière. La gloire, elle est pour lui. La lumière, elle est pour lui. C'est juste de porter du fruit. À cause de sa lumière. À cause que sa lumière, elle est claire. Ma vie, mon arbre, ça me donne ce fruit qui va venir. Alors il faut jamais oublier que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes les pierres vivantes. Dieu va passer par vous. Des fois, moi, je me pose la question, je me dis, Seigneur, si tu avais fait avec les anges, ça serait plus facile. Hein? Ça serait vraiment plus facile, tu aurais moins de problèmes qu'avec nous. Mais Dieu a choisi de faire avec vous, avec toi, avec moi. Moi, j'ai envie de donner des conseils à Dieu. Je dis, oui, peut-être moi, mais pas lui, pas elle. Ils sont pas assez bons, là. Ils sont pas assez beaux, ils sont pas assez forts. Dieu choisit de confondre les sages, les intelligents, avec sa sagesse. Et il va utiliser des gens que tu ne peux pas imaginer. Mais il va le faire. Vous savez, ceux qu'on met en avant dans le monde, ceux qu'on met devant sur l'estrade, qui sont beaux, qui sont forts, qui ont tout, souvent ils méprisent Dieu. Et puis ils ne laissent pas beaucoup de place au Seigneur, même des fois dans l'église. Et il y en a d'autres, des petits qu'on ne voit pas beaucoup, mais que Dieu utilise d'une manière puissante. Donc, Dieu se sert du temple qu'il veut, mais le temple c'est toi. C'est ta vie, c'est ton corps, c'est ta bouche, c'est tes mains, c'est tes pieds, c'est ce que tu es. C'est pour ça qu'il nous dit en Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Le mot temple dans ce texte, ça vient du grec naos qui veut dire demeurer. Vous voyez, temple, c'est pas juste un beau bâtiment pour regarder les touristes japonais avec l'appareil de photo. Oh, photo, c'est joli. Hein? Ils vont faire un grand voyage. J'ai vu le temple. J'ai vu Notre-Dame de Paris. C'était magnifique. C'est pas ça, le temple de Dieu. L'ennemi a réussi à changer, a tordu le sens du mot même. Parce qu'on pense que le temple, c'est un bâtiment de pierre. Le temple, c'est un endroit où Dieu demeure. Il y a des temples où Dieu demeure plus du tout. Il aimerait bien venir demeurer, mais il n'a pas de place. Il y a des vies où Dieu ne demeure pas. Dieu veut demeurer. Dieu veut rester. Un endroit où il se révèle, un endroit où il brille. Est-ce que tu as déjà vu la vie de frères, de sœurs, d'endroits? Tu dis, là, Dieu, il est bien à l'aise. Hein? Qu'est-ce que ça fait du bien de voir un enfant de Dieu, un chrétien, quelqu'un où tu sais que Dieu habite là et demeure. Et quand je vais vers ce frère, je sens la présence de Jésus. Quand je rencontre cette sœur, je vois que Jésus demeure en elle. Ça fait du bien, non? Et toi, tu ne peux pas le voir pour toi-même. C'est comme ça que Dieu fait les choses. On ne peut pas s'évaluer. On s'évalue beaucoup trop. On ne peut pas dire, moi, je pense que... Hein? On essaie de le dire, mais il n'y a que les autres qui le voient. Ta femme, elle va bien le voir. Ton mari, il va bien le voir. Surtout ceux qui sont très proches. Et ça, on n'aime pas trop. Hein? On aime mieux impressionner ceux qui sont loin, quoi, en disant, moi, j'ai la gloire. Et ta femme, elle le voit le lundi matin si tu as la gloire. Elle voit très bien si tu as la gloire de Jésus lundi matin à 7h, ou mardi soir, ou midi et mercredi, ou quand tu es fatigué ou fâché. Là, il voit bien. Elle voit très très bien la dose de gloire qu'il y a ou la dose de sanctification nécessaire encore. Hein? Et c'est pas un problème pour Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il te méprise, qu'il te rejette parce qu'un jour, il y a eu un peu moins de place pour la présence et la gloire. Mais ça, c'est la vérité. Adorer en esprit en vérité, c'est être dans la vérité. Donc, être avec des gens qui te connaissent en vérité. C'est très facile d'être à l'église et de tout montrer ce qu'on sait faire. C'est facile d'être devant, de parler, de chanter, de jouer, de danser, juste pour impressionner. Mais Dieu, il t'attend quand tu rentres de l'église. Il t'attend quand tu pars à l'église. Il y a des gens, ils partent à l'église pour adorer Jésus, et dans la voiture, c'est la guerre. Ils sont fâchés, ils sont énervés, ils sont en retard. Et puis t'as pas encore habillé les enfants, et puis t'as pas préparé le dîner, et puis si, puis... Ils arrivent à l'église. Ça va frère? Ça va bien. On va louer Jésus. Ben c'est vrai que quand on est là pour louer Jésus, il faut régler ses problèmes, il faut déposer. Mais une fois ça va, mais si c'est tous les dimanches comme ça, il y a un problème. Si tous les dimanches tu es fâché avant le culte, puis après tu règles juste au culte, puis après tu recommences, ça va pas. Il y a quelque chose dans ta vie qui doit changer. Pour que l'adoration, elle soit déjà à la maison. Dimanche matin, tu te lèves. Waouh, je vais pouvoir louer Jésus. Je vais pas attendre d'aller à l'église, c'est trop tard. 10h, c'est déjà 8h, je vais déjà louer maintenant. Allez, venez les enfants, bénissez Jésus. Merci Seigneur pour le petit déjeuner. Merci parce que j'ai le privilège de me lever pour aller au culte. Hein? C'est déjà ça. Et puis lundi matin, Oh, si seulement c'était plus long le dimanche. Si seulement le congé était plus long. Non, lundi, j'ai le privilège d'amener la présence de Dieu. Cette présence qu'on a vécue hier, merveilleuse. Je vais la prendre avec moi dans mon bureau. Et il y en a vraiment besoin dans mon bureau. Hein? Mon patron, il en a besoin. Mon collègue, il en a besoin. J'ai besoin de cette présence de Jésus. Jésus, viens avec moi. Laisse-moi pas. C'est ça, être le temple de Jésus. Être le temple de Dieu. C'est un temple mobile. C'est un temple à roulette. C'est un temple avec deux pattes. C'est un temple qui se déplace. Il n'est pas figé. Il n'est pas vissé. Il n'est pas soudé au sol. Il bouge. Vous êtes ce temple qui bouge pour Dieu. Et le but de tout ça, c'est d'être des témoins. Jésus a fait de nous des témoins. Il y a des fois, on aime être témoin, puis des fois, on n'aime pas être témoin. Il y a des fois, on dit, là, je suis d'accord d'être un témoin, parce que c'est une campagne d'évangélisation. Je vais être un témoin à la campagne. J'ai même le badge de conseiller. J'ai les cartes d'invitation. J'ai les traités. C'est très bien, ça. Mais c'est un tout petit bout, ça. Et tout le reste du temps. Tu vas être témoin, et des fois, où tu t'y attends pas. Et c'est là que c'est le plus important. Des fois, où tu es surpris, où on te pose une question. Comme à Pierre, on lui a posé la question. Mais tu étais avec Jésus, toi? Ah non, 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 je ne le connais pas, moi. Et une deuxième fois, tu étais vraiment avec Jésus? Non, non, pas du tout. Mais je suis sûr que je t'ai vu avec Jésus. Arrête de m'embêter avec ça. Ah, tu n'as pas choisi à ce moment-là d'être témoin. Mais Jésus a choisi à ce moment-là de voir si tu étais un témoin là. Ça, c'est plus difficile, c'est plus délicat. Mais Dieu veut se glorifier aussi à ta plus grande surprise parfois. Il veut que tu sois témoin. Et l'autel de l'Éternel, c'était un témoignage à chaque fois. Chaque fois qu'il y avait un autel sur le pays, des pierres, chaque fois que des gens passaient, ils disaient, ça c'est l'autel de Moïse. Là c'est l'autel d'Abraham. Là où il a offert son fils en sacrifice. Dieu s'est révélé. Oui, Dieu est vivant. Et tout de suite, tu es obligé de te positionner. Où j'en suis moi avec Dieu? Donc ta vie, la gloire de Dieu, la présence de Dieu devrait pousser les gens à parler de Dieu. Moi, j'ai un ami avec qui je travaille dans un studio, parce qu'on fait de la musique ensemble, mais il n'est pas chrétien. Mais chaque fois que je le vois, il me parle de Dieu. Moi, je n'ai même pas envie d'en parler. Je suis bien avec Dieu, je n'ai pas de problème. Mais lui, il a un problème avec Dieu. Il n'est pas en paix avec Dieu. Chaque fois qu'il me voit, on s'assied 5 minutes, il dit, ah, au fait, puis Dieu, et puis tout de suite, chaque fois. Même il m'écrit des emails, il me parle de Dieu. Il n'arrive pas à me parler d'autre chose. Moi, j'ai envie de lui parler, comment va ta fille, et puis t'as bien mangé aujourd'hui, et ton travail. Mais lui, il ne peut pas. Il est obligé de me parler de Dieu. Parce que ma position avec Dieu l'oblige à parler de Dieu, à se positionner face à Dieu. Il se défend, il se protège. Oui, mais Dieu, moi, je suis en règle avec lui. Mais en fait, il est mal à l'aise. Ça devrait être le cas pour tout le monde. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous mes amis et tous les gens que je rencontre. Mais en tout cas, pour cette personne, c'est le cas. Chaque fois qu'on en parle. Donc des fois il a envie de me voir, mais des fois il n'a pas envie de me voir. Il n'a pas envie de me voir, et quand j'arrive, il se dit bon, il ne sait pas trop quoi faire. Parce qu'il ne peut pas être juste indifférent à ce qui se passe. Dieu a choisi de se manifester, Dieu a choisi de se révéler, et nous sommes un témoignage constant. Ce n'est pas que les campagnes d'évangélisation. Et Dieu sans cesse appelle les hommes, appelle sans cesse. Et il veut que les hommes soient confrontés à sa réalité, afin qu'ils puissent justement faire leur choix. Et il va se servir de nous pour cela. Donc dans 1 Roi 8, verset 60, il dit, je construis ce tabernacle, c'est ça, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. C'est ça le but de Dieu. C'était ça le but en Israël. Pourquoi il y avait Dieu en Israël? Afin que les autres nations connaissent l'Éternel. Chaque fois que Dieu se révèle à des prophètes ou à des hommes en exil à Babylone ou ailleurs, chaque fois il dit, oui, c'est l'Éternel. Quand Daniel est dans la fosse au lion et qu'il en sort, le roi là, il est complètement bouleversé. Oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Chaque fois qu'il y a un témoignage puissant, les autres hommes reconnaissent et disent, c'est l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. C'est ça que Dieu attend. Que les rois, les présidents même, puisque c'est arrivé du temps de la Bible, des rois, des présidents qui ont dit, oui, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Aujourd'hui, ce qui se passe en Israël, cette petite nation, vous avez déjà vu? J'étais en Israël très, très récemment, au mois de septembre, j'étais aussi l'année d'avant et l'année d'avant. Ils nous montrent la carte. Une toute petite tache. Et à côté, des milliers de kilomètres carrés de taches de pays musulmans opposés à Israël. Mais de tous les côtés, il y a au moins 40 pays de tous les côtés. Si tu regardes sur une carte, ça frappe. Petite tache bleue et toutes les autres taches rouges autour, où tu peux mettre n'importe quelle couleur, mais tu vas voir, c'est impressionnant. Depuis la Mauritanie, toute l'Afrique du Nord, et puis ensuite de l'autre côté jusqu'à l'Iran, l'Irak, la Turquie, l'Ouzbékistan, tous ces pays. Incroyable. Minuscule. Et là, c'est une tache. Alors pour les Arabes, et surtout pour les musulmans, pas pour les Arabes, mais les musulmans, c'est une honte face à leur religion. Et ils disent, mais il faut que cette tache, elle disparaisse. C'est un problème, on a un bouton là, qu'il faut un mauvais, qu'il faut enlever. Et puis chaque fois que Israël est là et tient, c'est comme Dieu qui dit, j'existe, je suis vivant. Oh, il y en a beaucoup qui disent, non, c'est à cause des Américains, c'est à cause de... Non, non. Même les Américains, ils ne peuvent pas faire ça. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui protège Israël. Et c'est un témoignage devant les peuples, les nations. Comment est-ce qu'une petite nation comme ça, en 6 jours, peut repousser des ennemis, comme l'Égypte et plein d'autres nations qui s'attaquent à elle? C'est que des miracles. Chaque combat, chaque lutte, c'est un signe afin que les nations voient qu'il y a un Dieu en Israël. Aujourd'hui, Israël ne reconnaît pas le Seigneur, en tout cas au niveau des autorités, du gouvernement, mais ils sont amenés à le reconnaître de plus en plus. Et ils vont être amenés à le reconnaître. Parce qu'au travers des autres nations, au travers de la protection de Dieu, de l'intervention de Dieu, ils vont le voir. C'est un signe. C'est un signe dans la politique, c'est un signe physique, c'est un signe parmi les nations. Mais c'est un des signes. C'est pas le seul. Dieu, le signe prioritaire, c'est à travers l'Église. Alors malheureusement, l'Église a failli à sa tâche. Parce qu'elle est restée une religion, elle est restée une institution, au lieu d'être un lieu qui accueille la présence de l'Éternel. Et c'est pour ça que Dieu est en train de changer les choses. Dieu dit, suffit la religion. Ça suffit maintenant les rites, ça suffit les programmes. Maintenant, je veux établir ma présence et habiter au milieu de mon peuple. Dieu ne se soucie plus trop des noms. Dieu ne s'inquiète pas trop des dénominations. Il s'inquiète d'un homme, d'une femme qui l'accueille. Dans une ville, dans un village, dans un pays. Alors, est-ce qu'il y aura assez d'hommes et de femmes qui vont bâtir un hôtel pour l'Éternel à Bordeaux, pour qu'ils viennent et qu'ils demeurent? Si Dieu vous a placé dans cette ville, c'est pour ça. Il vous aurait pu vous mettre ailleurs, mais il vous a placé là, c'est pour accueillir sa présence, être ces pierres vivantes qui disent, Seigneur, viens là au milieu, viens au milieu de nous. Éphésiens 3:10 dit bien, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes, ça c'est toutes les puissances mauvaises, hein? Domination, autorité, c'est les chefs des démons et des puissances mauvaises, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu veut se révéler au travers de l'Église, mais pour autant qu'il puisse habiter dans cette Église, pour qu'il puisse avoir sa place, pas par une Église institutionnelle, mais par l'Église vivante où le Seigneur vit. Ézéchiel 37, verset 23, « Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. » Dieu a toujours le même plan, le même désir, se faire connaître, se faire rencontrer par des hommes et par des nations entières. Et aujourd'hui, heureusement, Dieu est en train de changer, de toucher les nations. Vous savez qu'en Afrique, il y a plusieurs présidents de nations qui sont chrétiens, et plusieurs de mes frères africains que j'ai rencontrés prient encore pour en avoir beaucoup plus. Il y a des montagnes de prières, des rassemblements de prières qui prient, qui intercèdent pour que Dieu soit accueilli, béni dans la nation entière. Et quand un président vient et dans son discours officiel dit « C'est au nom de l'Éternel que je le fais », ça change beaucoup de choses sur la nation. Hein? Donc on veut aspirer à cela, pour voir cela. Donc, il faut bien qu'on comprenne que le tabernacle, l'autel de l'Éternel, c'est un autel spirituel. Trop souvent, on veut le faire de manière humaine, charnelle. C'est spirituel. Ce soir, nous avons bâti un autel à l'Éternel. Nous sommes en train de le bâtir en étant des pierres vivantes rassemblées dans sa présence. Cet autel était spirituel. Bien sûr qu'il faut des organisations humaines. Il faut peut-être une sono, il faut peut-être une salle et des choses. Mais on travaille au niveau spirituel. C'est pas au niveau humain, c'est pas au niveau émotionnel. C'est un travail spirituel. On travaille dans l'esprit, par l'esprit, à cause de l'esprit. On est conduit par l'esprit, on est inspiré par l'esprit. On prie dans l'esprit, on agit dans l'esprit. Ensuite, il y a les émotions, ensuite il y a la volonté, ensuite il y a les autres domaines de notre vie. Mais c'est spirituel. Donc ça veut dire que ça va plus loin que chanter. Ça va plus loin que mes chants favoris. Ça va plus loin que ma danse, que mon ministère, ça va beaucoup plus loin que ça. Il faut tout déposer, il faut tout lâcher, il faut tout poser. Et sur un autel, vous savez, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on faisait? On brûlait. L'autel, c'est le lieu où tu brûles. Et des fois, il y a Dieu qui a bien envie de brûler ta guitare ou ton piano. Dieu n'aime plus les guitares. Dieu n'aime plus les pianos. C'est pas vrai. Mais si ta guitare et ton piano prennent trop de place, Dieu va la brûler. Parce que si ta guitare, c'est ton Dieu, Dieu va la brûler. Mais si ta guitare, elle est pour lui, il ne va pas la brûler. Au contraire, il va être trop content. Il va la protéger. Il va la garder. Il va la soigner comme toi, tu la soignes. Mais c'est pour lui et pas pour toi. Et si ton ambition, c'est qu'on t'aime, c'est qu'on t'accepte, Dieu va aussi brûler ça. Il faut que tu règles tes problèmes. Si ton ambition, c'est de chanter devant pour que tout le monde t'applaudisse, oh, qui chante bien. Tu vas à la Starac, mais tu ne viens pas dans l'église. Puis même à la Starac, on va te brûler. Hein. Parce qu'ils ne te gardent pas longtemps là-bas non plus. Hein. Là aussi, ils règlent tes problèmes. Hein. Ils te les disent en face, tes problèmes. Hein. Moi, j'aime pas ça. Mais voilà, c'est une réalité. Ce monde sans Dieu, qui écrase, qui pousse, qui rejette et tout ça. Mais en même temps, dans l'église, tu peux pas jouer à ce jeu-là. C'est pas possible. Et tous ceux qui ont essayé, il y en a beaucoup qui ont essayé, qui essayent encore, ça marche pas. Puis après, ils en veulent à l'église. Ils en veulent même à Dieu. Mais c'est ton problème. Il faut vouloir à ton problème. Il faut le résoudre. Il faut l'affronter. Tu as du rejet, il y a des gens qui t'ont pas aimé. Tout le monde a du rejet. Moi, j'ai eu du rejet, j'ai été rejeté par mes parents, j'ai été rejeté à l'école, j'ai rejeté. Toujours. Je peux rester toute ma vie, oh, je suis un pauvre. Oh, on m'a rejeté. Personne m'aime. Ou bien je peux affronter ce problème, dire rejet, au nom de Jésus, tu t'en vas. Je veux pas être nourri par le rejet. Je veux pas vivre dans le rejet. Ça m'avance à rien du tout. La seule chose que tu gagnes, c'est que quelqu'un te frotte dans le dos, puis dit, t'es un pauvre petit. Tu es un pauvre homme, tu es une pauvre femme, on va t'aimer. Mais toute ta vie, tu vas souffrir. Alors que Dieu t'a prévu pour être victorieux, pour sortir de ce problème. Amen. Parce que lui, il t'a accepté avant la fondation du monde. Comment tu peux dire qu'on t'aime pas si lui, il t'aime? Moi, c'est ça qui m'a aidé, qui m'a guéri. C'est dire, mais Dieu, ben, mes parents, ils m'ont peut-être pas aimé comme il faut, parfaitement. Mes camarades à l'école m'ont rejeté. Mais moi, j'aime Jésus, Jésus m'aime. C'est le plus important. Donc, à partir de là, j'ai été guéri. J'ai été délivré d'urgence, j'ai pu aimer mes parents. J'ai pu donner à mes parents l'amour qu'ils ne m'avaient pas donné. J'ai pu donner à mes camarades qui m'avaient rejeté de l'amour, au lieu de rester dans le rejet, l'insécurité. Donc tu ne peux pas faire la louange avec le rejet. Tu ne peux pas faire ça avec l'insécurité. Tu ne peux pas faire... Oh, tu peux essayer, mais un jour ou l'autre, ça va arriver en pleine figure. Et ça va être difficile. Donc gère. Et souvent, quand tu sers Dieu, ces choses, elles sortent. Alors gère-les. Va demander la prière, va demander de l'aide. Règle ces choses. Et ensuite, tu pourras le servir encore mieux. Encore mieux. Et tu le fais pour lui. Tu le fais pour lui. Tu l'adores lui. Tu le glorifies lui. Tu lui donnes le meilleur. Vous avez vu ce soir nos amis qui ont dansé, par exemple. C'est pas un spectacle. Vous pouvez les regarder danser, puis être touchés. Et eux, ils adorent. Que vous les regardiez ou les regardiez pas, ils vont le faire. Ils vous donnent un exemple, mais en même temps, ils adorent. C'est pas la question, ils vont pas calculer à la fin de la soirée qui c'est qui va leur dire vous avez bien dansé, vous avez pas bien dansé, ça me plaît pas, je suis content, je suis pas content. Oh, on a tout le temps des gens qui viennent dire ce qu'ils pensent. C'est pas ça le problème. Qu'est-ce que Dieu pense? Est-ce que leur cœur il était pour Dieu? Oui. Et Dieu est glorifié de cela. Et Dieu se manifeste là-dedans. Et c'est ça qu'on doit rechercher. Moi je veux plaire à Dieu dans ma louange, dans mon adoration. Je vais lui donner le meilleur, il a tout donné pour moi. Donc je veux que sa gloire se reflète. Et je ne suis pas encore satisfait du tout du niveau de la gloire de Dieu dans ma vie. La présence de Dieu, j'aimerais encore beaucoup plus. Mais je sais que c'est un travail, c'est une persévérance, c'est un sacrifice et que je dois continuer de brûler beaucoup de choses sur ces pierres. Des fois, j'ai pas toujours envie de brûler. Je me dis plus tard, on verra. Brûle, brûle le plus vite possible. Tu seras plus léger, beaucoup plus léger et tu pourras beaucoup mieux l'adorer. Alors on va prier et on va accueillir sa présence encore et encore, comme on l'a déjà fait. Prions. Merci Jésus, merci Seigneur. Jésus, merci parce que tu es là. Tu es là pas parce que c'est un bâtiment, pas parce que c'est une église, pas parce qu'on a fait un séminaire, tu es là parce que On t'accueille, mais parce qu'on veut que tu sois là. Parce qu'on a fait de la place dans nos cœurs pour toi, Jésus, dans nos esprits, dans nos âmes. Viens, Seigneur, viens habiter ce lieu de nos vies. Viens prendre toujours plus de place, Seigneur. On ne veut pas juste te laisser un petit coin, on veut te laisser toujours plus de place. Viens remplir nos vies, Seigneur. Viens remplir nos vies. Viens toucher nos vies. Viens manifester ta gloire. Viens habiter en nous, Seigneur. Viens habiter dans ce lieu, viens habiter dans cette ville. Que les hommes te voient, Seigneur. Il y en a beaucoup trop qui ne te voient pas. Il y en a tellement qui sont loin de toi. Oh, ils ont besoin de te voir. Ils ont besoin de te connaître, Jésus. Tu es la solution. Tu es la lumière. Tu es tout, Seigneur. Oh, Jésus, viens te révéler. Viens te révéler. Viens te manifester dans tes enfants. Viens te manifester dans tes enfants, Jésus. Viens montrer ta gloire. Viens te répandre dans la vie, dans les cœurs, dans l'âme, dans l'esprit de chacun de tes enfants qui t'accueillent. Toujours plus, Jésus. Et consume et brûle et enlève tout ce qui fait obstacle, Seigneur. Tout ce qu'on dépose à ta croix. Tout ce qu'on dépose. Alléluia. Ceux qui ce soir ont compris qu'il y a quelque chose qui faisait obstacle à la présence de Dieu. Quelque chose comme le rejet, comme l'insécurité, comme la gloire personnelle, l'ambition. Vous savez que c'est un obstacle à votre adoration. Je vous prie juste de vous lever là où vous êtes. Et je vais prier pour vous. Ce n'est pas pour montrer pour vous autres, c'est un engagement que vous prenez devant Dieu. Et un signe. Vous savez dans votre cœur qu'est-ce que vous renoncez, qu'est-ce que vous déposez. Seigneur, je ne veux plus jouer à ce jeu-là. Je ne veux plus faire ça pour cela. Je ne veux plus chanter, jouer pour être accepté, pour être aimé. Je sais que tu m'aimes de toute éternité. Vous pouvez juste vous lever et vous dites ça dans votre cœur, vous le dites au Seigneur. Vous lâchez ça. Et moi, je vais prier pour vous. Je laisse encore une minute. Si vous sentez que Dieu vous demande de poser quelque chose qui va brûler, alors faites-le. Et Dieu va le brûler si vous le déposez vraiment. Merci Seigneur. Shokoroba sakaraba sokoba. Shakaraka kakaba yade. Shekideba sokoroba bababara karayada son. Horobaka yade. Shekideba sokoroba sakaraba sokoroba sakaraba. Il y a des gens qui ont servi le Seigneur pensant qu'ils allaient être plus aimés par l'Église et par Dieu parce qu'ils faisaient quelque chose. Et Dieu vous dit, je t'aimais déjà bien autant avant, et je t'aimerai encore bien autant après. C'est pas parce que tu chantes, parce que tu me sers, que je vais t'aimer plus ou moins. Ça change rien à mon amour. Seigneur, tu prends tout ce que ces hommes et femmes déposent devant toi, tu le prends, et tu le brûles, tu le consumes. Briser la puissance de ces choses qui avaient une emprise dans la vie de mes frères et sœurs, le rejet, l'insécurité, la crainte, l'angoisse, la peur, le désir d'être aimé, d'être accepté. Dieu, brisez cela au nom de Jésus. Vous expirez profondément, vous laissez partir ça au nom de Jésus. Vous expirez, vous laissez partir ce que vous avez abandonné au Seigneur. Au nom de Jésus, je brise la puissance de tout ce qui tient ces hommes et ces femmes liés, qui les tourmente, qui les empêche d'être libres pour adorer Jésus. Ça quitte ces hommes et ces femmes maintenant. Le rejet, ça lâche, ça s'en va, ça cesse son tourment et son emprise. Seigneur, je prie pour une nouvelle liberté. Une nouvelle liberté, une liberté de laisser brûler, de te laisser enlever ces choses dans nos vies et nous permettre d'être toujours plus libres, de t'adorer, de te servir, de te suivre. Bénis mes frères et sœurs qui ont fait un pas ce soir, qu'ils puissent être des tabernacles toujours plus vivants, toujours plus vrais pour ta gloire, dans l'esprit et la vérité. Amen. Prenez place. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je crois qu'on va s'arrêter là, tout simplement. On pourrait faire encore beaucoup de choses, mais nous, on va se reposer un peu après notre grand voyage, notre journée, et puis on va être prêt pour demain. Je crois que la présence de Dieu, elle est là, et qu'elle va continuer d'être là.